Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 5 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine, et ce sera Joséphine Beka, et focus sur l'héritage du groupe Queen, 30 ans après la mort de Freddie Mercury. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 5 décembre, le Victoria enregistre 980 cas de COVID-19 et en Nouvelle-Galles du Sud, 286 cas, dont 15 du nouveau variant Omicron. L'autorité australienne de réglementation des médicaments a approuvé aujourd'hui, ce dimanche, à titre provisoire, le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. L'autorité australienne de réglementation des médicaments a approuvé aujourd'hui à titre provisoire le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le ministre fédéral de la Santé déclarant que le déploiement pourrait commencer à partir du 10 janvier prochain.
I'm delighted to be able to announce today that the Therapeutic Goods Administration, Australia's medical regulator, has approved access for 5 to 11 year olds to the Pfizer vaccine. They have made a careful, thorough assessment, determined that it's safe and effective, and that it is in the interest of children and Australians for children 5 to 11 to be vaccinated.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 286 nouveaux cas de coronavirus, alors que l'État surveille un nombre croissant de cas du variant Omicron, dont on craint la propagation dans la communauté. L'État a enregistré les nouveaux cas sur plus de 66 000 tests, tandis qu'une personne est décédée. Il y a eu 13 cas d'Omicron confirmés par des tests génomiques en Nouvelle-Galles du Sud depuis que les premiers cas ont été signalés la semaine dernière, mais seulement la moitié liée aux 8 pays préoccupants. Un cluster d'infections à la Regent's Park Christian School dans l'ouest de Sydney compte 13 cas, dont 3 déjà confirmés positifs pour Omicron. Le premier étudiant n'avait aucun lien connu avec l'Afrique australe et les enquêtes urgentes sont à la recherche de la source du cluster. La chef de la santé en Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Chant, a déclaré que la source du variant Omicron pour ce groupe scolaire faisait toujours l'objet d'une enquête.
It's linked to a Christian school, Regent's Park Christian School in Western Sydney, but also the Sydney Indoor Climbing Gym. We have advised people at the school and also at the climbing gym of the actions that they need to take in order to prevent the further spread. But can I actually thank the school community? It's been an amazing turnout for testing. Many of the school community turned out yesterday for testing, and that's really been useful in us getting a rapid understanding of how the transmission has occurred.
Dans le Victoria, 980 nouvelles infections de COVID-19 et 7 autres décès liés au virus. L'État gère 15 433 cas actifs de coronavirus. Quelques 299 patients infectés par le virus sont soignés dans des hôpitaux, dont 40 sont en soins intensifs. Le Victoria est désormais entièrement vacciné à 91% pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Hier, quelques 10 000 personnes ont manifesté dans le centre de Melbourne lors de cette première manifestation depuis que le gouvernement du Victoria a adopté des lois sur la pandémie. Les dépistages du cancer du col de l'utérus ont diminué, près de la moitié des femmes dans le Victoria n'ayant pas respecté les rendez-vous de routine pendant la pandémie. Le Cancer Council estime qu'environ 47% des tests ont pris du retard. Des sondages menés par The Cancer Council révèlent que de nombreuses personnes ont hésité à visiter les médecins généralistes pour le dépistage au cours des deux dernières années. Le gouvernement britannique a resserré les restrictions de voyage hier samedi en raison des inquiétudes concernant la propagation du variant Omicron, affirmant que tous les voyageurs arrivant en Angleterre vont devoir passer un test COVID-19 avant d'embarquer sur leur vol. Le secrétaire à la santé, Sajid Javid, a déclaré que les nouvelles règles s'appliqueraient dès mardi à partir de 4 heures du matin, heure de Londres. Javid a également ajouté le Nigeria à la liste rouge des voyages au Royaume-Uni, ce qui signifie que les arrivées en provenance de ce pays seront interdites, sauf pour les résidents britanniques et irlandais, et que ces voyageurs doivent s'isoler dans des installations de quarantaine. Il a déclaré qu'il y avait un nombre important de cas d'Omicron liés à des voyages avec le Nigeria, avec 27 cas enregistrés en Angleterre.
Nigeria now is second only to South Africa in terms of linked cases to Omicron. So today the government has decided to add Nigeria to the travel red list, and that will be effective from 4 a.m. on Monday, which will mean that only UK citizens or residents of the UK can enter the UK from Nigeria from that point onwards, and they will have to quarantine in one of the relevant hotels.
La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté les Allemands à se faire vacciner contre le Covid-19 lors de son dernier appel avant de quitter ses fonctions la semaine prochaine. Elle a renouvelé son appel aux Allemands à prendre le virus au sérieux, ajoutant que Omicron semblait être encore plus contagieux que les précédents.
This is so bitter because it could be avoided. With the effective and safe vaccines, we hold the key to this in our hands. I therefore urge you once again, take this treacherous virus seriously. The new Omicron variant in particular seems to be even more contagious than the previous ones.
Le voyage du président français en Arabie Saoudite et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a rencontré Emmanuel Macron à Jeddah en Arabie Saoudite hier. Le président français dit avoir abordé la question des droits de l'homme et aussi du Liban. Explication de François Bernard pour Radio France Internationale.
Le président français a déclaré qu'il était nécessaire de parler à l'Arabie Saoudite pour œuvrer à la stabilité de la région. Cela ne veut pas dire qu'on est complaisant. Une posture de la France vis-à-vis de l'homme fort d'Arabie Saoudite que ne partage pas du tout Aymeric Elouine. Il est responsable de plaidoyer armes et peine de mort chez Amnesty International France. Écoutez.
C'est une façon de légitimer à nouveau ce prince, alors que toute la lumière n'a pas été faite sur sa responsabilité dans la commission de ce crime. Je veux dire, et c'est ça qui est dramatique. Encore une fois, on voit que les droits humains sont placés en bas de l'échelle, ou plutôt sont totalement oubliés. Et on aurait attendu des gestes forts. Et puis en plus, de l'Arabie Saoudite, on peut parler de la peine de mort, on peut parler des défenseurs des droits humains, et notamment des femmes. Sachant que de 2011 à 2020, la France a livré à l'Arabie et aux Émirats pour plusieurs milliards d'euros de matériel de guerre. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a plus de diplomatie des droits de l'homme, il n'y a plus de diplomatie consistant à protéger le droit international humanitaire. On est tous consternés.
En France, Valérie Pécresse, élue candidate du parti LR pour les présidentielles de 2022, c'est la première femme à être candidate du parti de la droite à une élection présidentielle. Lucille Gimbert pour RFI.
Ils sont tous là autour d'elle sur l'estrade, ces quatre rivaux de la primaire, pour montrer l'unité de la droite. Valérie Pécresse, désormais candidate officielle de LR, savoure et leur envoie des gages.
Notre rassemblement, ce ne sera pas que des mots, ce seront des actes. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Elle est unie.
Pour preuve, elle sera dès lundi en déplacement près de Nice, sur les terres d'Éric Ciotti, avec le finaliste. Ciotti qui lui a apporté un soutien franc, mais exige que ses idées, très à droite, soient présentes dans sa campagne.
L'élan inédit et inattendu qui s'est levé derrière ma candidature, il est une démonstration de plus que ce sont nos idées, les idées d'une droite claire, forte, sans compromission qui sont au cœur des attentes du peuple de France.
Alors Valérie Pécresse tente de se poser en face à face avec Emmanuel Macron.
Entre le président sortant et moi, il y a plus qu'une différence de ligne politique. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire.
Même si, jusqu'à présent, les sondages nationaux d'avant sa désignation l'a donné autour de 10%, soit loin derrière le président et l'extrême droite.
Écoutons maintenant la réaction de Marine Le Pen qui invite les électeurs LR à la rejoindre.
Je suis malheureuse pour les électeurs LR, car en réalité, Valérie Pécresse est peut-être la plus macroniste dans cette compétition interne à LR, celle qui a en même temps quasiment exactement le même profil qu'Emmanuel Macron, et très certainement, sur un nombre considérable de sujets, exactement les mêmes positions. C'est triste pour les électeurs LR, parce qu'ils ont exprimé au travers de cette compétition leur souhait, justement, de sortir de ce côté Macron compatible. Ils n'auront pas réussi à faire cela. Ils ont toujours la possibilité, bien entendu, de venir participer à ma campagne.
En Afrique, au Mali, attaque contre des civils vendredi 3 décembre dans le centre du pays. Des hommes armés, des djihadistes présumés ont mitraillé un bus et tiré sur les passagers. Il y a au moins 30 morts. Serge Daniel, RFI.
De sources concordantes, ce sont les fidèles du prédicateur radical Amadou Koufa, Ali Aliad Darali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui sont les auteurs de l'attaque survenue près de la localité de Bandiagara. Ces combattants djihadistes s'implantent de plus en plus dans cette zone du centre avec des moyens militaires conséquents. Maintenant, pourquoi tuer une trentaine de civils sans défense? Un expert malien qui connaît bien cette région du centre parle, je cite, d'une stratégie pour aboutir à une scission territoriale. Fin de citation. Pour lui, en clair, les djihadistes veulent empêcher la libre circulation des biens et des personnes en coupant des localités importantes du reste du Mali. Il y a par exemple l'axe Bandiagara-Bankas et celui qui quitte Bandiagara pour s'évarer. Ensuite, poursuit une autre source, les mêmes djihadistes veulent se rendre maîtres des différents secteurs pour imposer leurs lois. Ils ont déjà proposé la signature d'accords locaux dont l'épine dorsale est l'application de la charia, mais n'ont pas obtenu pour le moment d'écho favorable partout. Autre question, comment peut-on arriver à faire face à la situation? Tous les experts interrogés séparément répondent, il faut que l'État malien reprenne le contrôle de nombreuses localités d'où il est absent.
Aux États-Unis, les parents de l'adolescent qui a tué mardi dernier 4 élèves de son lycée ont été arrêtés. Ils étaient recherchés depuis vendredi par la police et le FBI. Précision d'Oriane Verdier pour RFI.
Il y a une semaine, James Crumbley achète un pistolet semi-automatique à son fils à l'occasion des grandes promotions du Black Friday. Mardi matin, Ethan Crumbley, 15 ans, est convoqué avec ses parents par la direction du lycée. En question, un de ses dessins, une arme aux côtés d'un corps ensanglanté, d'un smiley et de messages tels que « Aidez-moi, le monde est mort, du sang partout ». À ce moment-là, l'arme est déjà dans le sac à dos de l'adolescent. 2 heures plus tard, il tire une trentaine de balles, tue 4 de ses camarades et blesse 7 autres personnes. Lui est arrêté sur place, inculpé pour acte terroriste, mais pour la procureure, les parents du jeune homme sont aussi responsables. Ils sont donc inculpés pour homicide involontaire. Elle leur reproche de ne pas avoir réagi, même après avoir vu le contenu des dessins et alors qu'ils savaient qu'il était en possession d'une arme. Cette inculpation est aussi un message plus général, selon elle, pour que les gens comprennent qu'à partir du moment où ils détiennent une arme, ils en sont responsables.
L'écrivain péruvien Vargas Llosa apporte son soutien au candidat d'extrême droite pour le second tour de la présidentielle au Chili. Reportage de Justine Fontaine pour RFI.
C'est une vidéo publiée par José Antonio Cast sur son compte officiel. On y voit Mario Vargas Llosa, nommé le mois dernier à l'Académie française, en train d'échanger en visioconférence avec le candidat chilien d'extrême droite. Après les victoires récentes de la gauche au Pérou, en Argentine ou encore en Bolivie, l'écrivain péruvien espère que la droite l'emportera au Chili, 2 ans après le soulèvement historique contre les inégalités dans le pays.
Si le Chili parvient à inverser cette tendance, cela changera les choses en Amérique latine. Ce sera très important pour le centre et les libéraux. Vous avez donc une responsabilité énorme.
Le candidat auquel il s'adresse est loin d'être centriste, mais celui qui inquiète Mario Vargas Llosa, c'est l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric, allié au Parti communiste chilien.
Aucun pays socialiste ou communiste n'a réussi, aucun. Alors j'espère qu'on va gagner ces élections.
Lors de la présidentielle au Pérou cette année, l'écrivain conservateur avait soutenu la candidate de droite populiste Keiko Fujimori, finalement battue au second tour.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 33 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 21. Hobart, 20. Canberra, 18. Sydney, 22. Brisbane, 27. Cairns, 34. Alice Springs, 37. Et à Darwin, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce 5 décembre, le Victoria enregistre 980 cas de Covid-19 et en Nouvelle-Galles du Sud, 286 cas, dont 15 du nouveau variant Omicron. L'autorité australienne de réglementation des médicaments a approuvé aujourd'hui, à titre provisoire, le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche, tout d'abord le foot en France, la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui a fait match nul, un but partout avec Lens, Marseille s'incline face à Brest 2-1 et Lille qui a battu 3-2-1. En Angleterre, Manchester City premier au classement a battu Watford 3-1, Liverpool deuxième a battu Wolves et Chelsea qui est à la troisième place, s'incline face à West Ham 3-2. En Espagne, victoire du Real de Madrid contre Real Sociedad de 2-0. Séville qui a battu Villarreal 1-0. Et le FC Barcelone qui s'incline face à Betis Séville 1-0. Et puis en Allemagne, la victoire du Bayern de Munich. Munich qui est premier au classement, qui a battu le Borussia Dortmund 3-2. Et le Bayer Leverkusen qui a écrasé Greuther Fürth 7-1. En Italie, l'AC Milan a battu Salernitana 2-0. Et l'Inter Milan s'est imposé contre l'AS Rome 3-0. Le calendrier des matchs de la Coupe du Monde féminine de la FIFA qui va être disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande a été confirmée, l'Australie accueillant 35 des 64 matchs qui se joueront en 2023. Le tournoi sera la plus grande coupe du monde féminine jamais organisée avec 32 nations participantes. Les Matildas devant jouer tous les matchs à domicile. Jamais auparavant un tournoi féminin n'avait été organisé dans deux pays et jamais auparavant deux confédérations n'avaient uni leurs forces pour le faire avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On écoute James Johnson, le directeur général de Football Australia.
This is a great match schedule for Australian football. It's also an excellent schedule for the Matildas. The Matildas are the only team in the tournament that are guaranteed not to cross a border. They will play every match here in Australia. That is very important for us. It's fantastic from a sporting point of view, but it's also fantastic from a commercial point of view because the Matildas will be playing at home in front of home fans.
Mary Jane Fernandez est la directrice des opérations pour la partie australienne de l'événement et elle déclare que la finalisation du calendrier lui facilite la vie en termes de réglage des préparatifs.
What it means now that we've got a match schedule, it just means we can get into the more of the detail of the planning. So from a travel perspective, from a transport perspective, and also we can now start getting into the detail with all of the stadiums around when their first match starts, when it finishes. And yeah, that's a really important part in the process.
Et puis sachez que les deux derniers matchs des Matildas contre les États-Unis le week-end dernier à Sydney et mardi à Newcastle ont battu des records d'affluence pour les deux sites de foot féminin. Les 36 000 supporters qui ont bravé la pluie à Sydney samedi dernier étaient la plus grande foule jamais enregistrée pour un match de foot féminin en Australie. Tandis que les plus de 20 000 personnes qui ont assisté au deuxième match de la série à Newcastle étaient la plus grande foule de tous les temps.
The last Matildas matches were huge. We broke records in ticket sales. So obviously, yes, that is an absolute must for us. We are going to fill stadiums and we're going to deliver the biggest ever FIFA Women's World Cup.
La Nouvelle-Zélande donnera le coup d'envoi du tournoi en organisant le match d'ouverture des Football Ferns à Eden Park à Auckland le 20 juillet en 2023, tandis que le stade olympique de Sydney accueillera la finale le 20 août. Et maintenant, on passe à Tom Rossi pour Radio France Internationale qui nous explique ces pays africains qui ont voté pour une Coupe du Monde tous les deux ans.
Les 54 patrons des fédérations nationales africaines soutiendront fermement l'organisation d'une Coupe du Monde tous les deux ans, si cela s'avère faisable. La Confédération africaine de foot emboîte le pas du congrès de la FIFA, favorable à cette réforme. Elle est la première instance continentale à le faire. L'Europe, à travers l'UEFA, et l'Amérique du Sud, via la CONMEBOL, y sont eux opposés, pour éviter de surcharger un calendrier déjà dense. Un argument qu'il pourrait de nouveau ressortir, d'ailleurs le 20 décembre, lors d'un sommet de la FIFA organisé pour discuter de cette proposition. Mais au-delà du mondial, beaucoup s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir cette réforme sur la Coupe d'Afrique des Nations, organisée tous les deux ans. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, les deux sont conciliables, mais il ne dit pas comment.
La principale compétition pour l'Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude. Une partie du processus consiste à s'assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matchs qu'auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions, ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années.
Motsepe botte en touche, mais il semble clair qu'il y aura de nombreux changements sur le continent en cas de mondial tous les deux ans.
Championnat du monde de handball avec la France qui jouera la Slovénie ce dimanche, mais pour son entrée vendredi, les Bleus ont battu l'Angola. Christophe Diremzian était sur place pour RFI.
Donc oui, 20 minutes en carburation diesel contre des Angolaises parties pied au plancher et qui trouvent assez facilement des solutions dans la défense adverse. En face, des tricolores qui peinent à régler la mire en attaque. C'est brouillon, mais ça finit par s'arranger à la pause. Les championnes d'Afrique baisseront définitivement les bras dans le dernier quart d'heure. Plus 10 à l'arrivée, ça fait 6 ans que les Bleus n'avaient pas gagné leur match inaugural du compétition internationale avec un tel écart. Ça change des faux départs lors des mondiaux 2017 et 2019. Et pour la confiance, c'est tout bénéfice, car mine de rien, l'Angola, présente aux Jeux de Tokyo mais sans passer le premier tour, n'avait rien d'un simple sparring partner, rappelle l'arrière Estelle Dzeminko.
Clairement, je pense qu'on joue la meilleure équipe hors Europe. Je me dis que dans ce mondial, on n'est pas chanceux de prendre l'Angola au premier tour. C'est une équipe qui gagne la CAN régulièrement, qui a déjà détrôné des grosses équipes européennes sur des grandes compétitions mondiales, JO. Donc franchement, hyper contente de cette rentrée en lice. On a mis du temps avant de creuser l'écart, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Angola, c'est une équipe qui se plie en 15 minutes de jeu? Non. Donc franchement, contente de ce résultat.
Et puis un mot du 14e tour cycliste du Rwanda qui se déroulera en février de 2022. Laure Broulard, RFI.
19 équipes s'affronteront sur les collines rwandaises, c'est 4 de plus que lors de l'édition précédente. Avec de nouveaux venus comme les coureurs de l'équipe nationale de Grande-Bretagne et les Espagnols de Burgos BH, des habitués de la Vuelta. Et le retour de grandes équipes professionnelles, Total Energy qui a remporté la dernière édition, ou encore Israel Startup Nation, l'équipe de Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, espéré en février. BNB Hotel et ses leaders Alain Boileau et Pierre Roland devraient également être de la partie. Le Rwanda, l'Érythrée, le Maroc et l'Algérie représenteront quant à eux le continent. Coronavirus oblige, le parcours sera une fois de plus en étoile autour de Kigali afin que les coureurs puissent dormir tous les soirs dans le même hôtel. La première étape sera un contre-la-montre individuel au départ de la Kigali Arena, le stade de basketball de la capitale. Un clin d'œil au championnat du monde de cyclisme sur route de 2025 qui se tiendront au Rwanda et dont le contre-la-montre est prévu au même endroit.
Un mot de la Davis Cup, on parle de tennis avec la finale qui sera disputée ce dimanche entre la Croatie et la Russie. Et puis le Grand Prix de Formule 1 avec le Britannique Lewis Hamilton qui partira en pole position pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite avec son rival Max Verstappen, le Néerlandais, qui partira troisième. Verstappen est en tête du classement des pilotes par 8 points devant Lewis Hamilton avec deux courses avant la fin de la saison, y compris celle d'aujourd'hui. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Comme chaque dimanche, nous nous attardons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, focus sur Joséphine Baker.
Joséphine Baker, française d'origine américaine, danseuse, actrice, chanteuse, résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Joséphine Baker qui est entrée mardi 30 novembre au Panthéon à Paris. Elle devient la sixième femme, la première noire de peau, à trouver place ainsi dans ce lieu symbolique de la République française. Le Panthéon qui honore les grands personnages de l'histoire de France, là où reposent les Voltaire, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, les Jean Jaurès et autres, André Malraux, Simone Veil, également décédée en 2017 et dont le corps repose au Panthéon depuis 2018. De fait, le corps, la dépouille de Joséphine Baker se trouve toujours au cimetière marin de Monaco, où elle a été enterrée après sa mort à Paris en 1975. Sa famille n'a pas souhaité son tombeau, sa dépouille, soit transférée au Panthéon, mais symboliquement, Joséphine Baker a désormais sa place au Panthéon, dans cet édifice du 5e arrondissement de Paris, en haut de la colline Sainte-Geneviève. Une grande cérémonie solennelle s'est déroulée mardi 30 novembre. Le 30 novembre, date anniversaire de sa naturalisation française, 84 ans en arrière. C'est le 30 novembre 1937 que Joséphine Baker a été naturalisée française.
L'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, c'était une volonté forte du président de la République, Emmanuel Macron.
Oui, on a eu l'occasion d'en parler, de le souligner tout au long du quinquennat du chef de l'État, Emmanuel Macron. Il accorde une place très importante au souvenir mémoriel, entretenir cette mémoire, ce qui a fait l'histoire de France. Il y avait mardi ce grand tapis rouge qui remontait toute la rue Soufflot jusqu'à l'entrée du Panthéon, avec des centaines d'écoliers qui avaient été invités là, du public, de part et d'autre. Emmanuel Macron a prononcé, nous allons le voir, un discours très fort. Joséphine Baker, qui est née à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, en 1906, d'une mère noire et d'un père blanc. Le Missouri, état du centre-est des États-Unis, avec à l'époque ses lois ségrégationnistes, cette Amérique du début du XXe siècle raciste. Joséphine Baker s'est extirpée de cette misère, de cette violence. Elle a été mariée très jeune, à 13 ans, un mariage qui ne durera que quelques mois. Mais déjà, elle chante, elle danse, elle a une énergie folle. À 16 ans, elle rêve de grandeur. Joséphine Baker, elle danse à Broadway, à New York, il y a à peine 20 ans. Elle s'embarque sur un paquebot, New York, Cherbourg, la Normandie, la France, pour effectuer une première tournée donc en France. Emmanuel Macron, il est revenu sur la vie hors norme de Joséphine Baker, une femme noire défendant les noirs, a-t-il dit, mais d'abord une femme défendant le droit humain, Joséphine Baker, qui mena tant de combats avec liberté, légèreté, gaieté, a affirmé le président de la République. Vous entrez dans notre panthéon où s'engouffre avec vous un vent de fantaisie et d'audace. Joséphine Baker, esprit des Lumières, ridiculisant les préjugés colonialiste, propos là encore du chef de l'État. À 5 mois de l'élection présidentielle en France, où Emmanuel Macron briguera, sauf surprise, un second mandat, eh bien, il a voulu faire de cette journée un grand moment de communion nationale. Il s'est posé en rassembleur, celui qui incarne l'espoir, l'ouverture, le multiculturel. Emmanuel Macron, qui a eu cette formule qui restera. Ma France, c'est Joséphine.
Revenons à présent sur l'incroyable carrière de Joséphine Baker.
Oui, nous parlions de premier voyage hors d'Amérique, sa tournée en France en 1925. Voilà ce qu'elle en dira plus tard. Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir, un pays réservé aux blancs. J'étouffais aux États-Unis, je me suis sentie libérée. À Paris. À partir de là, sa vie s'est donc tournée vers l'Europe, vers la France, même si elle retournera, bien entendu, de nombreuses fois aux États-Unis. Joséphine Baker, une vie d'artiste, de chanteuse, de danseuse. C'est aux Folies Bergères, à Paris, que sa carrière décolle. Des premiers rôles extravagants, où elle porte des plumes roses, une ceinture de banane dans son spectacle. La revue Nègre, elle danse presque nue avec seulement cette ceinture de banane, provocatrice Joséphine Baker, qui dénonce les stéréotypes, l'esclavage, le racisme. Sa notoriété commence à grandir, elle vit pleinement sa vie, oui, des amants, des amours, et elle défend des causes, elle le fera tout au long de sa vie à travers ses rôles et ses danses dénudées. Dans le Paris des années folles de l'entre-deux-guerres, elle incarne tout à la fois la beauté de la femme noire et donc ses combats, la lutte contre les préjugés, contre le racisme. Elle chante, elle danse, on l'a dit, avec des succès inoubliables. La chanson « J'ai deux amours » en 1931. Elle est au carrefour de tous les arts, Joséphine Baker, inspirant les peintres, les cubistes, mais aussi les musiciens, les jazzmen. Elle est naturalisée française, on l'a dit, le 30 novembre 1937.
Arrive ensuite la Seconde Guerre mondiale, où Joséphine Baker va jouer un rôle important dans la résistance.
Oui, tout en continuant ses activités d'artiste, elle va s'en servir habilement. Joséphine Baker entre en résistance. Elle se sert de son réseau, de ces gens de la haute société qu'elle côtoie les soirs de spectacle pour livrer des informations cruciales à la France libre, des messages codés dans des partitions de musique, des listes d'espions nazis qu'elle va dissimuler au risque de sa vie dans ses tenues de gala pour les remettre ensuite à des agents britanniques. De Marrakech au Caire, de Beyrouth à Damas, de Lisbonne à Alger, elle traverse ainsi la Seconde Guerre mondiale en tournée, artiste, mais aussi espionne au service de la résistance française. Titulaire d'un brevet de pilote, Joséphine Baker devient sous-lieutenant. Elle sera décorée après la guerre de la médaille de la résistance, de la Légion d'honneur, de la croix de guerre. Ensuite, eh bien, elle continuera ses combats, Joséphine Baker, multipliant notamment après la Seconde Guerre mondiale les allers-retours aux États-Unis pour défendre en terre américaine la cause des Noirs américains, le combat pour les droits civiques dans le sillage de Martin Luther King. Elle s'installe en France, en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, au château des Milandes, où elle vivra jusqu'en 1969. C'est son fief, c'est son refuge avec Jo Bouillon, son nouveau mari, le quatrième de ses 5 mariages. Elle s'entoure de 12 enfants de toutes origines. Elle les adopte, sa tribu arc-en-ciel, comme elle disait. La fin de sa vie à Joséphine Baker sera plus difficile, fin des années 60, elle est endettée, criblée de dettes et elle doit quitter la mort dans l'âme, son château des Milandes, la vie sans compter, la vie de faste. Elle remontera ensuite sur scène, aidée par la princesse Grâce de Monaco, notamment une amie, mais aussi par la Croix-Rouge. Joséphine Baker qui trouve la force donc de se relancer avec des soirées de gala, à Londres, à Belgrade, à Paris. Elle finira par s'éteindre le 12 avril 1975 à Paris. À l'âge de 68 ans, elle succombe à une attaque cérébrale. Joséphine Baker et ses 1000 vies, ses 1000 combats. Elle est enterrée au cimetière marin de Monaco, mais elle repose aussi désormais au Panthéon.
Merci Émile pour ce focus sur le personnage de la semaine. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Vous écoutez le programme en français. Je passe l'antenne maintenant à ma collègue Marianne qui va faire ce focus sur l'héritage du groupe Queen 30 ans après la mort de Freddie Mercury avec le journaliste Manuel Rabas qui raconte la personnalité du chanteur et l'héritage qu'a laissé Queen dans l'industrie musicale moderne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler musique. Un groupe que vous connaissez forcément d'études que vous avez déjà fredonnées ou alors chanté à tue-tête. Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, Somebody to Love, Radio Gaga. Vous l'avez deviné, on va parler de Queen. Son chanteur iconique, Freddie Mercury, s'est éteint il y a maintenant 30 ans. Avec nous, Manuel Rabas, journaliste musical, ancien rédacteur en chef du mensuel Hard & Heavy, collaborateur chez Rolling Stone et auteur de l'ouvrage Queen, The Show Must Go On, paru en 2019 et réédité en septembre dernier. Manuel, bonjour.
Bonjour.
Queen, ce sont des tubes des années 70, 80 et pourtant des chansons encore dans l'air du temps. We Are The Champions est clamé dans les stades du monde entier. We Will Rock You a été démocratisé dans une publicité pour de l'eau minérale dont on taira le nom. Manuel, quel est l'héritage de Queen sur l'industrie musicale aujourd'hui?
C'est une très bonne question. Queen, en fait, curieusement, a été récupéré ces dernières années, effectivement, surtout par la publicité, qui utilise bon nombre de chansons plus ou moins détournées. C'est aussi un groupe qu'on entend régulièrement sur ce qu'on appellerait les radios FM classic rock. Après, pour ce qui concerne les ventes de disques, c'est devenu assez compliqué maintenant. Effectivement, c'est un groupe qui est très streamé, mais je ne sais pas si ça a encore vraiment un impact en termes de réelles ventes physiques.
Et est-ce que le fait que Queen ait eu autant de succès dans les années 70-80 a inspiré les groupes suivants?
Curieusement, Queen, c'est peut-être pas très connu, mais c'est une certaine inspiration pour des groupes de heavy metal, et notamment pour Metallica, qui a fait une reprise d'une chanson de Queen qui s'appelle Stone Cold Crazy. Après, c'est un groupe tellement à part, qui a un univers tellement particulier, avec évidemment un chanteur tellement exceptionnel, que c'est un peu compliqué pour, on va dire, un groupe lambda, de vouloir, j'allais dire, s'inspirer de Queen. Et je sais que le guitariste Brian May a influencé beaucoup de monde. Ça, il y a beaucoup de guitaristes dans les années 80, 90 et sans doute 2000 qui disent qu'ils ont beaucoup écouté le travail de Brian May, qui est assez exceptionnel, même si c'est pas un guitariste très démonstratif. Il y a une qualité mélodique dans ce qu'il joue qui est tout à fait extraordinaire. Je pense que la fameuse Lady Gaga s'est inspirée au moins de l'attitude de Freddie Mercury, qui est une espèce d'attitude carefree qui consiste à ne pas s'imposer de limites, à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, mais de le faire bien. Très bien, très libre et très perfectionniste. Et ça, c'est peut-être un des héritages principaux de Freddie Mercury.
Et tout à l'heure, vous parliez de streaming. Justement, Bohemian Rhapsody est la chanson du XXe siècle la plus diffusée en streaming sur les différentes plateformes, avec plus de 1,6 milliard d'écoutes. Cette chanson et le groupe Queen plus généralement auraient-ils leur place dans le monde d'aujourd'hui?
Quelque part, ils l'ont, hein, comme l'a prouvé aussi le succès du film Bohemian Rhapsody. Maintenant, est-ce qu'un groupe comme Queen pourrait se développer et obtenir ce statut aujourd'hui avec les nouveaux médias? C'est une très bonne question, je ne sais pas.
Ils dérangeaient déjà un petit peu à l'époque, mais c'était tellement nouveau, tellement original qu'on a laissé libre cours à son imagination. Peut-être qu'aujourd'hui, ils dérangeraient un peu plus.
Ce qui s'est passé avec Queen, qui n'est pas développé d'ailleurs franchement dans le film, c'est qu'en fait, dès le départ, Queen a été adulé par une partie du public et totalement détesté par la critique de l'époque. Les journalistes, en particulier anglais, les détestaient. C'était à peu près pareil dans tous les pays.
Et vous parliez du film justement Bohemian Rhapsody. Il est sorti en 2018. Il a été réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher. Ce film a été récompensé de 4 Oscars. Ce biopic retrace-t-il vraiment la réalité de leur quotidien à l'époque ?
Sans doute qu'au niveau des musiciens de Queen, c'est relativement fidèle. Après, par contre, le film prend beaucoup de liberté avec l'histoire. Il y a beaucoup d'anachronismes. Bon, évidemment, il y a des traits qui sont un peu forcés, d'autres qui sont un peu atténués. C'est amusant que vous m'en parliez parce que le film a été diffusé sur la chaîne M6 en France le 1er décembre et il a fait plus de 4 millions de spectateurs. Donc, ça a été la plus grosse part de marché de la soirée.
Donc, ça intéresse les gens. 40 ans après, Queen fascine toujours autant.
Absolument, d'autant que 4 millions, c'est exactement le nombre de spectateurs en cinéma que le film a fait, ce qui est absolument énorme.
Parlez-nous un petit peu plus de Freddie Mercury précisément. On sait de lui que c'était un petit garçon timide. Il devient ensuite une rockstar à la voix digne d'un soliste d'opéra. On se fait l'image d'une diva, d'un fêtard, d'une créature extravagante, provocante. C'était un sacré personnage, n'est-ce pas ?
Il est né à Zanzibar, dans une communauté qu'on appelle les Parsis, qui sont des Zoroastriens, qui viennent d'Iran et qui ont dû émigrer en Inde il y a plus de 1000 ans et qui sont ensuite un peu dispersés. La famille de Freddy travaillait en fait pour la couronne britannique. Et avait gardé des liens avec sa famille dans les environs de Bombay, ce qui explique qu'en fait, ils ont envoyé le petit Freddy, qui à l'époque s'appelait Farouk, ils l'ont envoyé en pension pendant 5 ans, dans une école privée assez sélecte des environs de Bombay. Et c'est là qu'il a appris à chanter, notamment il avait une professeure de musique qui leur faisait écouter des opéras, ce qui l'a énormément marqué. Et en même temps, il s'est mis à jouer du rock'n'roll avec ses petits camarades parce qu'il adorait Elvis Presley, entre autres. Malheureusement pour eux, la famille Boulsara a subi les affres de la décolonisation et s'est fait expulser de Zanzibar en 1964 et est venu s'installer près de l'aéroport d'Israël
en Angleterre,
dans la banlieue londonienne. Freddy, il a fait des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille et puis il a réussi à intégrer une école d'art assez réputée là aussi à Londres. C'était la Ealing Art School qui a servi de pépinière à plein de rockstars, dont Pete Townshend des Who. Il avait choisi de travailler dans la mode et c'est là donc qu'il s'est frotté un petit peu avec tout le swinging London en fait, qui à l'époque était en pleine effervescence. C'est là qu'il a rencontré aussi, en fréquentant le magasin Biba, Mary Austin, qui est l'amour de sa vie, même s'il s'est révélé assez rapidement homosexuel. Même si, disons, à partir du milieu des années 70, il a eu de très nombreuses relations avec des hommes, il a toujours été fidèle à Mary, qui est toujours restée sa meilleure amie. Et le fait que, l'anecdote disant que quand il achète Garden Lodge, sa grande propriété, il fait installer Mary dans un appartement qu'il donne en fait sur sa chambre pour qu'il puisse se voir. Ça, je pense que c'est tout à fait exact. Il avait vraiment besoin d'elle et c'était quelque part vraiment le grand amour de sa vie, même si c'est pas un amour qui a été, disons, consommé comme traditionnellement.
Un amour platonique.
Et à part ça, ben, Freddy était quelqu'un de, je pense, que c'était quelqu'un de très timide en fait. Curieusement, son adolescence a été très compliquée. Quand il est arrivé, on le prenait pour un Pakistanais et il a subi un certain racisme et un certain ostracisme. Ça, c'est très clair.
Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991. Il avait 45 ans. La veille, il avait publiquement révélé être malade du sida. Ma question est, le groupe Queen, en tant que tel, a-t-il survécu à la mort de Freddie Mercury ?
Le groupe a continué sans le bassiste John Deacon, qui s'est retiré de la vie publique. Mais Brian May et Roger Taylor vont continuer à faire vivre Queen. Alors, en fait, de deux manières. Il y a eu une comédie musicale qui s'appelait We Will Rock You, qui a eu un succès phénoménal en Angleterre pendant près de 10 ans. Elle s'est restée à l'affiche d'un théâtre. Et sinon, bah, le groupe, en fait, a décidé de, entre guillemets, remplacer Freddie Mercury avec des chanteurs, divers chanteurs. D'abord, Paul Rogers, qui est un très grand chanteur de, on va dire, dans le registre Soul, Rhythm and Blues, qui a fait une tournée dans les années vers 2006-2007, et ils ont même enregistré un disque ensemble. Et j'ai vu le concert, c'était vraiment très bien. Paul Rogers, il a une voix beaucoup plus, on va dire, noire que celle de Freddie Mercury, mais il s'en sortait très bien. Et dans les années 2010, ils l'ont remplacé cette fois par un jeune chanteur qui s'appelle Adam Lambert, Queen existe encore totalement dans les années 2020, sans souci.
Manuel Rabas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Je vous remercie.
Et enfin, l'émission un rappel des grands titres de ce 5 décembre. Le Victoria enregistre 980 cas de Covid-19 et en Nouvelle-Galles du Sud, 286 cas ont été enregistrés, dont 15 du nouveau variant Omicron. L'autorité australienne de réglementation des médicaments a approuvé ce dimanche à titre provisoire le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je vous laisse avec Ronnie Théophile, les comédiens. Belle journée.
Notre étau, ils ont ôté le restrat et plié les calicots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'un requin. D'abord matin, quand le soleil va se lever.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.